Les rendez-vous du monde de la CARES. Donc, le rendez-vous aujourd'hui, c'est aux Palestine et votre émission aujourd'hui est assurée par le collectif judéo-arabe et citoyen pour la Palestine ainsi que l'Union juive française pour la paix. Donc, deux associations qui se battent, qui ont un combat commun, c'est-à-dire le respect du droit international pour que la Palestine et les Palestiniens soient respectés sur le plan international et qu'ils soient considérés comme des citoyens à part entière. Nous avons avec nous une jeune Alsacienne de 28 ans, Claudia, qui a choisi de faire un voyage en Palestine et donc elle va nous parler de ce voyage. Bonjour Claudia.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue dans notre émission. Vous avez choisi de faire un voyage en Palestine. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi la Palestine et pas un autre endroit du monde?
Écoutez, d'abord, Atis, la Palestine est un endroit qui en vaut bien d'autres sur la planète. Et on ne peut pas dire que la France, par exemple, n'ait pas des liens très forts et très anciens avec la Palestine. Ça a été pendant longtemps la Terre Sainte et par exemple la cathédrale de Strasbourg, comme toutes les cathédrales de France, hein, sont tournées vers Jérusalem, sont tournées vers la Palestine. C'est évidemment pas la raison pour laquelle je suis partie là-bas. J'étais déjà bien informée de la situation et c'est un vrai choix. Je ne dirais pas que c'est un choix militant, mais c'est une destination de voyage qui me paraissait très importante.
Et donc, vous avez fait votre voyage, vous avez été déçue, ça a répondu à vos attentes?
Bien entendu, on y va, on essaye de partir en voyage de façon générale avec le moins de préjugés possible. On essaye de découvrir quelque chose et on n'est pas déçu d'un voyage en Palestine.
Alors, vous êtes accueillis par les Palestiniens, grands, petits. Tout d'abord, les Palestiniens, vous êtes francophones. Est-ce que vous parlez l'arabe? Comment est-ce que vous communiquez avec l'habitant?
Alors, du simple paysan, puisque j'y allais pendant la cueillette des olives pour cueillir des olives, aux gens très cultivés, les Palestiniens sont tous anglophones, et d'ailleurs j'allais dire ils sont tous cultivés finalement, ce qui nous facilite amplement la tâche, hein. Ça ne serait pas le cas pour un étranger qui viendrait dans tous les milieux sociaux en France par exemple. En Palestine, on communique partout en langue anglaise sans difficulté.
Et vous avez aussi vous avez appris aussi quelques bribes de mots arabes comme ça par-ci par-là.
Évidemment, on a passé quelques semaines en Palestine, on est pris dans un bain linguistique et on a bien du plaisir à pouvoir comprendre quelques mots après 15 jours de voyage.
Alors concrètement, comment ça se passe? Vous êtes sur place, c'est vraiment un pays super occupé, en guerre, ou bien on mange bien, on est bien accueilli, il y a quand même autre chose qu'on voit à la télévision?
Alors,
qui vous surprend le plus quand vous êtes sur place?
Alors, ce qui nous surprend le plus, d'abord, je répondrai oui aux deux aspects de votre question, puisque oui, c'est un pays en guerre. On peut aussi arriver et ne rien voir au premier abord. En ce moment, il se trouve que les gros checkpoints qui séparent Israël de la Cisjordanie sont plutôt fluides. Il n'y a plus des gros barrages comme on a connu et ça arrive encore certains jours. Et il y a tout le temps des checkpoints en Palestine, mais on peut aussi très bien se dire que tout circule, tout va et ne rien voir. C'est ne pas voir qu'au sommet des collines, par exemple, il y a des habitations qui sont celles des colons. Alors on les reconnaît très facilement puisque toutes les habitations des Palestiniens sont surmontés de réservoirs d'eau, alors qu'on voit au sommet des collines des habitations très rectilignes et très uniformes des colons israéliens qui ont l'accès à l'eau courante, à l'électricité, etc. Donc ça, c'est des signes qu'on peut voir quand on est un peu initié, par exemple. Il y a aussi des routes dont vous voyez très clairement qu'elles sont réservées à certains et non à d'autres. Donc l'apartheid, oui, il est visible, on peut aussi se rendre directement en tant que Français d'Israël à Ramallah par exemple, et ne voir que les grands hôtels, que les constructions, etc. Ne pas voir les colonies environnantes qui peuvent, même les toutes petites colonies, terroriser toute une ville, y compris avec des tirs réels. On peut ne pas voir les camps de réfugiés palestiniens aussi qui comportent une forte concentration de population. Donc on peut aussi ne voir que le beau Ramallah. Mais personnellement, je me rendais en voyage, donc je le disais tout à l'heure, pour cueillir des olives. Et on est pris en charge, en quelque sorte, hein, par une association exemplaire, c'est l'Union des travailleurs agricoles palestiniens, qui organise donc la venue des internationaux pour participer. Alors ça peut faire sourire, hein, parce que je n'ai rien d'une paysanne, hein, ou d'une bonne fermière, hein, pour participer à la cueillette des olives. Voilà.
Est-ce que vous êtes dans l'agriculture?
Alors,
vous êtes passionnée par cueillette des olives?
Je dois dire
qu'est-ce que vous avez pour cueillir des olives?
Alors, effectivement, ma contribution et la contribution des internationaux sur le plan agricole reste assez modeste. Hein. En revanche, le principe, c'est non seulement de montrer qu'il y a quelques internationaux qui se mobilisent sur la question palestinienne et qui ne sont pas totalement oubliés, ce qui reste un peu vain comme projet, mais surtout dans l'éventualité d'attaques de colons qui se produisent de façon très régulière, pas plus tard que la semaine dernière, hein, il y a de nombreux oliviers qui ont été arrachés. Donc la présence d'internationaux est censée limiter, censée freiner, censée un peu adoucir les rapports avec les colons qui débarquent tout simplement armés et qui viennent incendier, etc. Alors je donne peut-être l'impression un peu de caricaturer ou de donner une vision vraiment noircie des rapports qu'il y a entre les deux, mais par exemple dans le premier village où on a été envoyé pour participer à cet effort de collecte des olives, à cet effort de cueillette. On n'a pas assisté à des incursions de colons voisins. En revanche, un jour, on nous a emmenés, sans nous expliquer, en tracteur sur un champ d'oliviers voisins. Et là, vous êtes au milieu d'un cimetière d'arbres. Et vous voyez 250 oliviers qui, juste avant votre arrivée, ont été sectionnés, ont été sciés, donc de façon à être totalement improductifs, voilà, et pas des oliviers tout jeunes. Voilà. Donc là, il n'y a pas de mots et c'est pas très radiophonique. Alors on a tous vu des images, hein, de ces oliviers qui sont soit calcinés, soit sciés, etc. Mais il n'y a pas de mots pour décrire ce que cela peut faire. Dans le village où j'étais, il y avait également eu auparavant une attaque contre la mosquée avec des inscriptions insultantes qu'ils avaient un peu avant brûlé la mosquée.
Et en parlant de tracteur, on ne peut pas ne pas parler de Madame Rachel Corrie. Et donc vous pouvez nous dire, même nos invités, pour nous dire un petit mot sur Rachel Corrie. Ça ne vous fait pas peur d'aller faire la cueillette des olives alors qu'il y a eu l'incident Rachel Corrie?
Non, et il faut relativiser. Les attaques contre les internationaux restent totalement marginales. Moi, je voudrais plutôt inciter tous les gens qui auraient envie de partir à partir. On n'est pas exposé comme le sont les Palestiniens, c'est pas vrai. Et puis, de toute façon, c'est valable pour n'importe quelle destination dans le monde. On se rend plus compte à quel point on a la chance, hein, d'être français, d'avoir un passeport français, de pouvoir circuler, de pouvoir entrer dans des pays étrangers. On ne se rend pas compte à quel point on est privilégié par rapport à une très grosse partie de la population mondiale. Et ça reste anecdotique. Alors évidemment que Rachel Corrie, c'est une histoire absolument tragique et révélatrice et qui montre tout à fait l'absence de scrupules, d'état d'âme de la part de l'occupant israélien face à certaines situations. Et si vous regardez l'actualité de la semaine dernière en Palestine, il y a un journaliste, par exemple un journaliste israélien qui a été, irlandais, qui a été blessé. Il n'y a pas forcément de scrupules à l'égard des Européens. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand il y a des attaques de colons dans les champs d'oliviers? En général, l'armée intervient pour s'interposer dans un rôle qui n'est pas très bien défini, pas très clair, qui ferait sourire les Palestiniens. C'est celui de s'interposer. A priori, c'est pour s'interposer. En fait, on voit, on assiste, on peut regarder tous les témoignages, il y a beaucoup de vidéos, hein, qui circulent, parce que les Palestiniens filment, on voit que l'armée est là pour protéger les colons. Ce faisant, pour rassurer d'éventuels volontaires, l'armée est présente. Donc voilà, entre les colons qui eux n'ont pas de retenue, hein, qui sont armés, qui sont des civils armés, et les gens.
C'est bien que vous souligniez la question des colons qui sont presque incontrôlables. Ces mêmes colons posent aussi un problème avec les Israéliens, parce qu'ils se comportent de façon un peu très peu respectueuse des règles israéliennes. Alors, on va revenir à votre intervention, mademoiselle Claudia. Je voudrais avoir la réaction de Perry ou de Jean-Claude par rapport à votre voyage, par rapport à ce que vous avez dit.
Oui, moi je voulais dire que c'est vraiment très important de venir aider les Palestiniens pour la récolte des olives, qui est une des dernières moyens de subsistance, moyens économiques existants en Cisjordanie. Il y en a encore d'autres, mais l'olivier, c'est quand même une culture historique.
Historique et symbolique, surtout. Symbolique
et non très importante. Concrètement, l'arrachage d'olivier dont a parlé Claudia, c'est quelque chose de terrible. Hein. Les oliviers, ils mettent des années et des années à repousser. Ce n'est pas rien. C'est vraiment très, très grave. D'autre part, ce que je voulais dire, c'est que il est vrai que l'armée s'interpose peut-être, mais en fait, elle protège les colons dans la plupart des cas. Elle protège les colons et on a assisté à des choses très graves. On a passé déjà des films à Strasbourg sur, en particulier, Hébron, où la situation est encore pire qu'ailleurs. Je pense que les colonies sont édifiées avec l'aide de l'armée, et même si les colons eux-mêmes sont une frange qui est plus, comment dire, une partie est une frange plus extrémiste qu'une autre partie de la population, mais ça n'empêche que les colons sont représentés partout et sont aidés par le gouvernement et l'armée.
Monsieur Jean-Claude Maillard, vous voulez rajouter un mot, surtout expliquer sur qui est Rachel Corrie et, pour éclairer davantage nos auditeurs.
Oui, alors Rachel Corrie, c'est une jeune américaine qui s'est engagée dans un mouvement qui s'appelle ISM, International Solidarity Movement, et c'est des gens qui, effectivement, agissaient et agissent de manière tout à fait pacifique, non violente. Et ça s'est passé au sud de la bande de Gaza. Il y avait là une zone un peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'en fait les Israéliens avaient neutralisé une bonne partie de la frontière entre Gaza et l'Égypte en détruisant les maisons et en faisant passer les bulldozers ou les tracteurs. Donc ça fait une espèce de no man's land, quoi, pour mieux surveiller les passages à cet endroit-là et les activités de résistance des Palestiniens. Et alors, bon, Rachel Corrie, il y a d'ailleurs un très beau film très bien fait là-dessus. Rachel Corrie, elle était à un moment devant un de ces énormes bulldozers, bon, c'est des caterpillars et d'autres saloperies de ce genre, et le bulldozer a continué à avancer, elle s'est retrouvée dans la terre, quoi, enfin, les en tiré vif, quoi, on peut dire, hein. C'est quelque chose d'absolument abominable. Bon, alors, il y a eu une enquête, entre guillemets, d'Israéliens, mais enfin, à ce jour, personne n'a été condamné. Hein. Donc, voilà, et comme l'ami qui parlait tout à l'heure, il faut dire que c'est quand même très rare, parce qu'il ne faudrait pas que les choses qu'on raconte comme ça dissuadent les gens d'aller en Palestine. C'est extrêmement rare, tout de même, que des choses comme ça arrivent. Alors, je voudrais justement dire un mot à propos, puisque tu as parlé tout à l'heure des oliviers arrachés. Bon, c'est vrai, on voit les photos et c'est une chose vraiment insoutenable, abominable, quand on sait qu'il y a des oliviers qui peuvent vivre 500, 600 années, n'est-ce pas, et que, bon, ça fait partie des sources de revenus des Palestiniens. Il y avait les orangeraies à Jaffa avant la création d'Israël. Tout ça a été rasé bien avant 48 ou en 48, au moment de l'épuration ethnique. Et tous les jours, effectivement, des colons s'en prennent à des oliviers. Bon, c'est absolument criminel. Et justement, en tant que juif laïque de l'IGFP, je vais ajouter quelque chose, parce qu'il faut savoir que dans le judaïsme, il y a tous les ans une fête qui est, en français, la fête des arbres. Bon. Et est lié à ça, entre autres, une association internationale sioniste née en 1902 en Angleterre qui s'appelle le KKL, Kerem Kayemet Sile Israël. Et ce KKL est considéré, par exemple, à l'ONU ou ailleurs, dans les instances internationales, comme une organisation non gouvernementale, une ONG. Et il se présente comme eh bien, une association qui s'occupe de planter des arbres en Israël. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui est quand même affreux de penser que Certes, ils plantent des arbres, hein, ils plantent des forêts, mais préalablement à ça, ils ont rasé également des centaines de milliers d'arbres qui appartenaient à des Palestiniens. Donc, il faut absolument ne pas donner un euro à une association comme le KKL qui participe de l'épuration ethnique du peuple palestinien.
Un auditeur nous signale qu'il faut dire que du temps de Sharon, il a fait arracher 30 000 oliviers.
Oui, voilà, ça continue. Hein. Et là, d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je profite de cette occasion pour dire que ça, c'est un exemple que le tribunal Russell sur la Palestine met en avant pour justifier le terme qu'il emploie de sociocide. On en parlera tout à l'heure. Alors, sur les colons, quand même, j'aimerais dire quelque chose encore, si c'est possible, parce que c'est des choses assez ambiguës, parce que, bien entendu, on peut dire qu'en dernier ressort, l'armée israélienne protège les colons. Alors, si les colons devaient être menacés par les Palestiniens, soit de manière plus ou moins pacifique, soit peut-être un peu plus violente, avec des cailloux ou d'autres choses, il est clair que l'armée israélienne protège les colons israéliens qui sont installés en Cisjordanie. Bien. Mais en même temps, il est vrai que les choses se passent de manière assez ambiguë, parce qu'il faut savoir qu'il y a des colons, il y a des groupes de colons fous furieux, n'est-ce pas, qui appartiennent à des organisations d'extrême droite, bon, c'est l'équivalent du Front National ici, ou pire encore en France, et ces colons, ils décident un jour de s'installer sur une colline. Alors, ils amènent des caravanes, dans un premier temps, et ils mettent les caravanes, ils sont 3, 4, 5, 10 caravanes. Et puis, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas délogés par l'armée israélienne. Donc ce sont des implantations que Shalom Arshab considère comme illégales. Hein, illégales, même du point de vue israélien, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais, en fait, ces colons, ils restent. Et l'armée, après, ou l'administration, c'est l'administration militaire d'ailleurs, va leur installer l'eau, l'électricité, etc. Et ensuite, les caravanes vont devenir des bungalows, et les bungalows vont devenir ensuite des maisons et des petites villes. Et c'est comme ça depuis des dizaines d'années, en particulier depuis 1967, où la Cisjordanie est occupée.
Merci beaucoup Jean-Claude pour toutes ces explications. Je me tourne vers notre jeune Alsacienne qui a choisi de faire un voyage en Palestine. Alors Claudia, vous nous avez parlé de votre cueillette des oliviers, vous êtes allée sur place, vous avez vécu avec la maison pendant plus de 15 jours. Qu'est-ce que vous a le plus marqué ?